Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Heuvels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons parler de résurrection. Nous allons poser des questions, mais nous n'aurons pas forcément les réponses. Donc la première lecture, c'est Jean-Paul qui va nous lire.
Donc dans le livre de Néhémie, au chapitre 9, les versets 16 à 20. Mais eux et nos pères, ils ont été orgueilleux. Ils ont raidi leur cou et n'ont pas écouté tes ordonnances. Ils ont refusé d'écouter et ne se sont pas souvenus des miracles que tu avais faits pour eux. Ils ont raidi leur cou et dans leur révolte, ils se sont mis en tête de retourner à leur servitude. Mais toi, tu es le Dieu des pardons, bienveillant et miséricordieux, lent à la colère et plein de fidélité. Tu ne les as pas abandonnés, même quand ils se sont fait un veau de métal fondu et qu'ils ont dit « Voici ton Dieu qui t'a fait monter d'Égypte ». Ils ont été coupables de grandes offenses. Et toi, dans ta grande miséricorde, tu ne les as pas abandonnés dans le désert. La colonne de nuée ne s'est pas écartée d'eux pendant le jour pour les conduire sur ce chemin, ni la colonne de feu pendant la nuit pour éclairer le chemin sur lequel ils marchaient. Tu leur as donné ton bon esprit pour qu'ils aient du discernement. Tu n'as pas refusé la manne à leur bouche et tu leur as donné de l'eau pour leur soif.
Et la lecture de l'évangile de ce dimanche est dans l'évangile de Luc, au chapitre 20, les versets 27 à 38. Alors s'approchèrent quelques Sadducéens. Les Sadducéens contestent qu'il y ait une résurrection. Ils lui posèrent cette question. « Maître, Moïse a écrit pour nous, si un homme a un frère marié qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve et donne une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier prit femme et mourut sans enfant. Le second, puis le troisième, épousèrent la femme, et ainsi tous les sept. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, cette femme, à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, puisque les sept l'ont eue pour femme ? Jésus leur dit, « Ceux qui appartiennent à ce monde-ci prennent femme ou mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection des morts ne prennent ni femme ni mari. C'est qu'ils ne peuvent plus mourir, car ils sont pareils aux anges. Ils sont fils de Dieu, puisqu'ils sont fils de la résurrection. » Et que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même l'a indiqué dans le récit du buisson ardent, quand il l'appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui. »
Thank you.
Nous sommes aujourd'hui confrontés à un marché du religieux, riche de bricolage et de syncrétisme. Jésus, Bouddha, le nirvana, le régime alimentaire, la puissance des ondes, tout cela est pour certains une seule et même chose. Or, la lecture de ce jour dans le Nouveau Testament nous amène à parler d'un sujet convoité par ce marché du religieux, celui de la vie après la mort. Nous sommes face à une montée en flèche de la réincarnation alliée à divers mouvements. Et ce succès ne touche pas seulement les incroyants, mais aussi les chrétiens et aussi les chrétiens protestants. J'aimerais tout d'abord faire sentir les incompatibilités profondes qui existent entre la réincarnation et l'esprit de l'Évangile. Nous tenterons dans un deuxième temps de réfléchir sur la résurrection en tant que telle, pour ensuite l'étayer par 4 remarques.
Donc nous relèverons, avec les pensées aussi d'Alain Pélissier, 4 incompatibilités majeures entre la réincarnation et l'esprit de l'Évangile. L'esprit de l'Évangile ne fait pas vivre le chrétien sous la loi de la carotte et du bâton. Nous ne vivons pas avec cette hantise du bon compte, du meilleur compte possible pour obtenir la meilleure place auprès de Dieu. Nous ouvrons tous les dimanches une Bible et non pas un barème. Or, la réincarnation, c'est la loi implacable, précise, claire de la rétribution. Tel comportement engendre telle réincarnation. Eh bien non, souvenons-nous que Dieu a brisé la loi de l'échange, que le Dieu de l'Évangile fait tous les jours table rase sur nos fautes, nos compromissions, et nous ouvre une nouvelle page. Comme nous le rappelle cette belle image d'Alain Ouzio, allons vers demain comme si nous avions devant nous une page blanche à remplir.
Comme le chrétien ne vit pas sous le joug de la rétribution automatique et éternelle, il ne vit pas non plus seul, isolé, perdu, fabriquant par ses propres moyens son avenir, son devenir. Or, dans la réincarnation, l'homme ne peut compter que sur ses propres forces, sur ses propres possibilités pour construire, assurer son devenir, pour construire, assurer un meilleur corps, une meilleure tête. Or, Jésus-Christ nous rappelle que Dieu aide, soutient, parle à l'homme. Dieu envoie l'homme sur le chemin de la vie, mais bien plus, Dieu lui donne gratuitement, totalement, sans que l'homme y soit pour quelque chose, sa grâce.
Troisième point, l'Évangile ne définit pas l'homme comme ayant une boîte noire en lui, qui récapitulerait tout son être, tout son corps, tous ses sentiments. Or, la réincarnation distingue le corps et un noyau ultime qui est détachable du corps pour aller dans un nouveau corps. L'Évangile, lui, considère que la personne est un tout, une entité, corps et âme, et non une boîte interchangeable.
Et le dernier point, dans la réincarnation, la vie est plus ou moins répétitive, plus ou moins cyclique. C'est une sorte d'éternel recommencement que l'on vivrait dans le corps d'une chèvre, puis dans le corps d'un roi, puis par exemple dans le corps d'un paroissien. Or, l'esprit de l'Évangile souligne que la vie est unique pour chaque individu.
Non, le chrétien n'est pas une boîte noire qui, de siècle en siècle, sous le joug de la carotte et du bâton, essaie de gravir petit à petit les marches de la gloire. Le chrétien est une personne qui est motivée par un appel, celui de Dieu, qui lui affirme « Rien ne peut séparer aucune de tes journées de mon amour, de mon pardon, de ma grâce. J'ai un projet pour que tu vives complètement, pleinement, la vie qui t'est donnée. »
Jésus-Christ n'est pas réincarné, mais ressuscité. Alors me direz-vous, qu'est-ce que la résurrection ? Qu'est-ce que cela veut dire que Jésus soit mort et ressuscité ? N'est-ce pas un peu dépassé ? Ne faut-il pas passer à autre chose ? Eh bien non. Croire en la mort et en la résurrection du Christ n'est pas une croyance. C'est une partie intégrante de notre foi. La signification de la mort et de la résurrection est loin d'être dépassée. Elle est d'une brûlante actualité, criante de vérité.
Avant d'être ressuscité par son Père, Jésus est mort. Or, nous faisons tout aujourd'hui, dans notre société occidentale, pour oublier le drame, l'horreur de la mort. Nous mourons à l'hôpital, plus chez nous, et nous sommes enterrés loin de la cité. Regardez nos faire-part de décès. Le terme « mort » n'y figure presque jamais. Pourtant, avant la résurrection, il y a la mort de Jésus. Les évangélistes, Paul, et par leur intermédiaire, Dieu, ne minimisent pas le drame de la mort.
Jésus pleure devant son ami Lazare. Gethsémané est une tragédie. Ne nous cachons pas la peur, l'effroi, la terreur que nous ressentons face à la mort de nos proches et face à notre propre mort. Ne masquons pas les cris de douleur, de souffrance. Ne cachons pas notre révolte devant la mort. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
La mort et la résurrection de Jésus-Christ sont criantes de vérité car elles nous obligent à prendre la mort au sérieux. À la suite de nombreux théologiens, je crois, et je prends là une option théologique partagée majoritairement mais pas unanimement, je crois que la mort signifie bien la mort. La mort est la mort. Nous mourons vraiment.
Nous sommes morts, nous mourons, et pourtant nous avons cette promesse de la résurrection. Alors, qu'en est-il ? Jésus ne nous a pas raconté comment cela se passera, ni ce qu'il y aura après la mort. La résurrection, ce n'est pas comme ces fameux jeux de la Française des Jeux, vous grattez et vous savez la somme que vous avez gagnée. Non. Avec la résurrection, vous pouvez bien gratter à longueur de journée ce mot, vous ne découvrirez pas à travers les évangiles, les lettres de Paul, des indications précises quant à la résurrection. On ne peut pas construire une doctrine, vérité importante, à partir des textes bibliques. Quand on tente de le faire, on les fausse, on les trahit.
Paul ne cherche pas à enseigner telle ou telle théorie, mais à ramener à Christ ses auditeurs. La prédication chrétienne n'apporte pas un savoir sur l'au-delà. Elle affirme qu'il y a une vie après la mort. La prédication chrétienne affirme par l'intermédiaire des femmes qui ont découvert les premières le tombeau vide que Christ est ressuscité. Les femmes, cela n'arrange rien. Vous savez toute la confiance, toute l'autorité que l'on donnait aux propos des femmes dans les années 30 à 33. La résurrection dépasse l'entendement. Nous ne pouvons pas accrocher qu'à cette seule affirmation, qu'à cette seule espérance, Christ est mort et ressuscité.
N'essayez pas d'imaginer, vous errez, dit Jésus aux Sadducéens. Vous essayez d'imaginer l'inimaginable, de mesurer l'incommensurable, de penser l'impensable. Avec vos petites têtes d'hommes bornés, vous voulez enfermer Dieu dans vos limites. Vous méconnaissez la puissance de Dieu dont vous parlent vos Écritures.
Dieu nous recrée à partir de rien. Il fait ressurgir quelqu'un qui n'existait plus nulle part. Il lui donne d'être à nouveau par un acte comparable à celui de la création. La résurrection reconstitue un corps et une âme et donc une personne.
Mais il reste que Dieu ne nous permet pas de nous faire une image de l'existence dans un au-delà. D'ailleurs, la vie après la mort ne serait pas vraiment un au-delà si elle pouvait devenir l'objet de connaissance. Nous sommes incapables de la saisir par nos paroles, nos concepts et nos images. L'essentiel tient en cela. Il y a une vie après la mort. Cette vie, comme l'existence actuelle, est tout ce que nous avons, vient de Dieu, et c'est de Dieu que nous la recevons. Mais nous ne sommes pas, et nous ne serons jamais, en état de la décrire.
Nous conclurons en faisant quatre remarques. Vous avez là ce qui s'appelle un acte de foi. Le croyant dira que ce n'est pas parce que c'est impensable pour l'homme que c'est impossible à Dieu. Ce n'est pas, dira le croyant, parce que l'aveugle ne peut décrire la lumière et les couleurs que celle-ci n'existe pas. Vous êtes, nous sommes, face à un acte de foi. Soit vous faites confiance à Dieu, totalement, complètement, et dans ce cas vous croyez en la résurrection sans rien savoir d'elle.
Soit vous prenez Dieu comme impossible parmi d'autres, et là effectivement, face à l'absence de preuves tangibles, face à un discours scientifique raisonnable, vous considérez que la pauvre Marie de Magdala et l'autre Marie, qui disent avoir vu la pierre rouler étaient sous le coup de l'émotion. Elles auraient peut-être dû prendre un peu de repos. Vous considérez aussi que les pauvres disciples étaient eux aussi fort désappointés, en fait, que tout cela n'est que symbolique. Sans parler de Paul, qui, lui, nous dit même « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et notre foi aussi est vaine. »
Face à la résurrection, il y a un pas à franchir dans notre foi. Soit nous acceptons ce Dieu hors de nos frontières, hors de notre entendement, nous acceptons ce caractère que nous aimons gommer aujourd'hui, d'un Dieu avec une autre logique que la nôtre, et nous acceptons par là même la puissance de Dieu qui peut transformer une vie d'homme, la puissance de sa création et de son message, soit nous la refusons.
C'est là l'acte de foi par excellence. La résurrection nous plonge dans l'ignorance, dans l'absence de connaissance. Nous, hommes, nous n'avons pas d'emprise sur cette annonce de la résurrection confirmée aux Sadducéens par Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ lui-même est un mystère.
Confronté à cette ignorance, Jésus-Christ nous donne une leçon, celle de l'humilité. Dieu n'est pas dans nos mains, c'est nous qui sommes dans les siennes. Dieu n'est pas seulement dans nos livres, dans nos théologies. Dieu est autre que ce que nous pensons de lui. Seul Dieu parle bien de Dieu, disait Pascal. Le mystère de la résurrection est un avertissement pour nous tous lorsque nous voulons posséder Dieu.
La résurrection fait à mon sens partie de ce royaume annoncé par Dieu. Certains affirment que le royaume de Dieu est déjà sur terre, que nous sommes déjà ressuscités. Certes, ceci dit, ne trouvez-vous pas que c'est un royaume bien pingre, avec des églises, quelle que soit leur confession, lourdement humaines, et avec des chrétiens qui sont assez forts en contre-témoignage. Nous sommes encore loin de la volonté de Dieu et de son royaume.
Je crois qu'il y a donc un autre royaume, même si nous sommes déjà appelés, interpellés dans celui-ci pour faire la volonté de Dieu. Nous sommes effectivement, d'une certaine manière, déjà ressuscités par notre foi en Dieu. Cependant, nous avons à la travailler.
Enfin, la résurrection nous oblige à nous focaliser, à nous concentrer, à nous investir sur la vie que Dieu nous donne aujourd'hui. La résurrection contient deux espérances, deux affirmations, pas des allégations, mais des affirmations. La première, c'est qu'il y a une vie après la mort. La seconde, c'est que cette vie ici-bas est unique. Unique signifie irremplaçable. En d'autres termes, la résurrection est une invitation à vivre complètement, passionnément, avec une curiosité dévorante ce qui nous est offert et ce que nous pouvons créer. La résurrection est un hymne à la vie d'aujourd'hui.
Mais comment vivre? Je pense qu'en tant que chrétiens, nous nous demandons sans cesse quel est le projet de Dieu pour le monde, pour l'homme, pour nous. Au-delà de nos tentatives de réponse, de nos théologies, il y a un noyau, une pièce maîtresse, un invariable, la libération que Dieu nous donne par grâce. « Tu n'as pas d'autre Dieu que moi, » dit Dieu. Cela coupe l'herbe sous le pied à tous les faux dieux que nous construisons sans arrêt.
Nos faux dieux, nos fausses autorités sont nos églises, nos commissions, nos traditions, mais aussi notre langage, notre système de référence, notre manière de nous exprimer et aussi quelquefois nous-mêmes. Ces faux dieux nous enferment, nous sclérosent dans des habitudes. Ils nous conduisent à des refus de l'autre, à des incapacités de se parler, de se comprendre.
Dieu nous donne cette libération et c'est à nous chrétiens tous les jours d'essayer de la vivre. Nous n'avons pas d'autre Dieu que Dieu. Nous n'avons pas d'autre vie sur terre que celle-ci qui nous a été donnée.
Je termine en disant ceci. L'Évangile nous montre ce matin, comme le suggère le superbe mot de Gide dans les nourritures terrestres, que chaque instant est essentiellement irremplaçable. Gardons à l'esprit celui de l'Évangile, en nous souvenant que Dieu nous libère chaque instant. Vivons donc cet essentiellement irremplaçable. Amen. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au temple 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.